Voilà, et je vous invite à ouvrir le plus merveilleux livre qui existe, et nous l'ouvrirons dans le livre des Philippiens. Et nous lirons le chapitre 3, à partir de la deuxième partie du premier verset, jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Hein, Philippiens 3, 1b jusqu'à 4, 1. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le huitième jour. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être sauvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course, afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frère bien-aimé, je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, la prédication, c'est comme un discours sans son. Le cœur n'entend absolument rien du tout. En fait, c'est comme si je prêchais comme tout à l'heure, durant toute la prédication. Quelqu'un a dit un jour, les prédicateurs envoyés par Dieu ne sont pas comme des boîtes à musique qui, une fois remontées, égrènent leurs notes. Non, ils sont des trompettes totalement muettes tant que le souffle de vie ne leur donne pas un son clair. D'où l'importance de prier, que Dieu agisse dans nos cœurs lorsque la parole de Dieu est prêché. Sinon, c'est comme s'il n'y avait pas de son ce matin. Dans le texte, la parole infaillible de Dieu que nous étudions aujourd'hui, nous voyons que Paul s'attaque à un problème majeur de la première église. Et ce problème a malheureusement persisté jusqu'à aujourd'hui. Le résumé de ce problème est que l'homme pécheur, par nature, veut s'attribuer ce qui appartient à Dieu. L'homme pécheur par nature veut s'attribuer ce qui appartient à Dieu. Sous forme de question, voici ce que cela peut donner. Est-ce que l'homme est sauvé et accepté par Dieu pour ce qu'il fait lui-même ou par grâce? Est-ce que l'homme peut garder ou améliorer le salut par ses propres forces? Il n'y a que deux possibilités en fait. Soit la religion du Christ qui nous dit que tout vient de la grâce de Dieu, que nous ne méritons rien et que nous ne sommes capables de rien par nous-mêmes, tout en étant impliqués. Ou soit, comme toutes les autres religions du monde, qui disent que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons nous-mêmes nous approcher de Dieu. Et les pharisiens étaient représentants de la deuxième catégorie. Et malheureusement, la pensée pharisienne est aussi entrée dans l'Église. Déjà au début, déjà à Philippe. Et ceux qui avaient de telles pensées disaient que le salut par Christ était extraordinaire. Mais si tu veux réellement être proche de Dieu, vraiment être spirituel, il faut quelque chose de plus. À l'époque de Paul, cela signifiait se faire circoncire, observer des lois alimentaires, revenir en fait aux racines juives pour être vraiment proche de Dieu. Mais en faisant cela, on ajoutait quelque chose à l'œuvre de Christ pour le salut. Ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de Christ, et même pour le garder ou l'améliorer, c'est voler une partie de la gloire de Dieu pour nous l'approprier. Qu'on ajoute quoi que ce soit à l'œuvre du salut de Christ, ou même pour le garder ou l'améliorer, eh bien en fait on est en train de voler une partie de la gloire de Dieu pour nous l'approprier. D'autres, dans le contexte de Philippe, se croyaient déjà arrivés à la perfection. Donc, ils ne cherchaient plus à progresser, puisqu'ils étaient déjà arrivés à la perfection. Eh bien, Paul fait face à ces deux situations dans Philippiens 3 que nous voyons ce matin ensemble. Et nous développerons cette partie en parlant de trois éléments, trois points. Le premier, je l'ai intitulé « Perdre ce que l'on ne peut garder ». Perdre ce que l'on ne peut garder. Ce sera jusqu'au verset 7. Ensuite, nous parlerons de gagner ce que l'on ne peut perdre. Gagner ce que l'on peut perdre, les versets 8 à 11. Et pour terminer, nous parlerons dans la dernière partie de la persévérance. Persévérer. Voici les trois éléments que l'apôtre Paul donc utilise pour répondre à cette situation tragique de personnes qui voulaient soit ajouter quelque chose au salut, ou soit disaient, on y est arrivé. C'est bon, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, relisons les sept premiers versets de Philippiens que je vous encourage à avoir ouverts devant vous. « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire la même chose, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus, qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. » Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Dans le verset 1, l'apôtre Paul dit aux Philippiens qu'il ne se lasse pas de rappeler, de répéter les mêmes vérités. Ça me fait penser à ce qu'on est appelé à vivre dans notre vie, comme le pilote d'avion qui, chaque fois qu'il prend son avion, va passer toujours la même checklist pour être sûr non seulement de décoller, mais aussi d'atterrir. Pour nous, il est bon de reprendre régulièrement aussi le même évangile pour nous le rappeler, pour que nous puissions décoller et atterrir, si vous voulez. Continuer l'illustration. Le pilote d'avion qui passe toujours la même checklist pour être sûr non seulement de pouvoir décoller, mais aussi de parvenir à destination. Le Saint-Esprit, par Paul, nous donne au verset 3 la description du vrai circoncis. Verset 3, trois éléments qui nous sont donnés ici pour le vrai circoncis. Donc si quelqu'un vous demande si vous êtes circoncis, eh bien regardez cette liste et si vous vivez cela, vous pouvez dire oui. Pas physiquement, mais spirituellement évidemment. Premièrement, il rend un culte à Dieu par l'Esprit. Deuxièmement, il se glorifie en Christ. Et troisièmement, il ne place pas sa confiance dans la chair. Ça, c'est les marques des vrais circoncis. Et Paul met en garde contre ceux qui enseignent un autre évangile en ajoutant quelque chose à l'œuvre de Christ, justement. Ils disent que le plus important, c'est d'avoir un bon CV spirituel, un bon curriculum spirituel. Un CV, c'est un document où nous indiquons notre parcours professionnel avec nos formations, nos expériences et tout ce qui peut démontrer nos compétences. C'est ça un CV, hein. Pour les adultes, vous connaissez cela. Pour les enfants, ben voilà, comme ça vous savez qu'un CV, c'est un document où nous indiquons notre parcours professionnel avec nos formations, nos expériences et tout ce qui peut démontrer nos compétences. Et certains semblent dire à Philippe que pour entrer dans le royaume de Dieu, le fonctionnement est identique à l'entrée dans une entreprise. Il suffit de montrer un bon CV spirituel pour entrer dans le royaume des cieux. Paul, qui connaît cette attitude chez les Philippiens, va entrer dans leur jeu pour démontrer la folie de mettre sa confiance dans la chair. Et il va leur dire, vous demandez un bon CV spirituel? Eh bien, je peux vous en présenter un, en 7 points d'ailleurs. Et il leur présente, c'est les versets donc 4 à 6, hein, qui dit ceci, donc dès le verset 5, « Je suis circoncis le 8e jour, comme Jésus. Cela signifie que j'ai vécu toutes les pratiques juives dès ma naissance. » Il dira ensuite, « Je suis de la race élue d'Israël, le peuple béni par Dieu. C'est ma nationalité. Je suis de la tribu de Benjamin, une tribu recommandable, qui a fait partie d'ailleurs du Sud, hein, celle qui n'a pas fait partie de la première déportation, mais de la deuxième, donc il y a beaucoup de bons rois. Et en plus, il y a quelqu'un qui vient de Benjamin, qui est quelqu'un de très important en Israël, qui a fait du bien, c'est Mardoché. » Quand on pense à des tribus en Israël, alors nous on n'a pas tellement l'habitude, mais pour ceux qui vivaient en Israël, eh bien on rattache des figures importantes à chaque tribu. Quand on disait Benjamin, on pensait aussi à Mardoché par exemple. Je suis hébreu, né d'hébreu. Je suis descendant de sang de la lignée d'Abraham, hein, c'est celui qu'on a appelé l'hébreu, Abraham. J'étais pharisien, ce qui signifie que je faisais partie du plus haut niveau de judaïsme. Nous, on a souvent une idée un peu négative des pharisiens. Mais il faut penser qu'être pharisien dans le judaïsme, c'est rien de négatif. Hein. Un commentateur nous dit d'ailleurs qu'être pharisien, c'était faire partie d'une élite influente et hautement respectée, dont les membres vivaient scrupuleusement afin de connaître, d'interpréter, de garder la loi et d'y obéir. C'est en fait les meilleurs. Paul continue, je pratiquais les vertus religieuses suprêmes qui est le zèle. Il considère que la vertu suprême, c'est le zèle. Je l'ai pratiqué de façon tellement conséquente que j'ai persécuté l'Église qui était considérée comme ennemie du judaïsme. Vous voyez, son zèle était tellement grand. Et j'ai un casier judiciaire parfaitement vierge. Et ma conduite était exemplaire. Je pourrais vous donner des références. Alors, quand on fait un CV, on donne des références. Là, il ne l'a pas fait ici, mais en parlant de tout cela, on pense qu'il... C'est facile pour lui. Il y a quelqu'un à l'époque qui était très connu, qui s'appelait Gamaliel. Une référence. Mais je peux vous donner la référence. Il peut vous dire tout cela. Paul démontre que si quelqu'un pouvait se reposer sur un bon CV spirituel, c'était lui. Si quelqu'un pouvait se reposer sur un bon CV spirituel, c'était lui. Hein? Ceux qui disent, ben voilà, il faut pratiquer les pratiques de juifs pour être proche de Dieu, ben il dit, ben voilà, moi je peux vous le présenter. Et il ne fait pas cette démonstration pour se mettre en avant, mais pour éviter que ses détracteurs disent « Ouais, mais c'est parce que t'es jaloux, c'est parce que t'es pas aussi bien que nous que tu dis cela. » Non, mais il leur dit « Non, non, je ne suis pas jaloux. Moi, j'ai un CV qui est quelque part meilleur que le vôtre. Hein? La plupart, d'ailleurs, vous n'êtes même pas juifs de naissance, par exemple. Hein? » Paul a un CV spirituel à se faire embaucher dans n'importe quel royaume gouverné par l'apparence. Et pourtant, Paul dit ceci au verset 7. Regardez avec moi. « Mais ce qui était pour moi un gain, donc de pouvoir être embauché dans tous les royaumes de la chair du monde, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. » Et il continue plus fort. « Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures. » Et pourquoi Paul dit-il cela? Eh bien, on va reprendre ces 7 éléments du CV face au salut, juste pour démontrer qu'en fait, vous verrez, c'est inutile. Il a vécu tous les rituels illustrés ici par la circoncision du huitième jour. Mais aucun rituel n'a jamais sauvé personne. Les éléments qui sont vécus de façon visible, comme le baptême que nous vivons par exemple, ne sauvent pas, ils manifestent une œuvre de Dieu. Deuxièmement, son origine ne le sauve pas. Troisièmement, sa connaissance de son passé ne le sauve pas. Pas parce qu'il peut remonter les généalogies que cela prouve qu'il est sauvé. Son lien de sang avec Abraham ne le sauve pas. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on est chrétien. Sa religion et même sa participation à la plus haute instance de la religion ne le sauve pas. Sa sincérité et son zèle ne peuvent pas le sauver. Il ne suffit pas d'être sincère et zélé pour être sauvé. Il faut croire en Jésus-Christ. Et à propos de sincérité, j'aime bien raconter cette histoire amusante. Un prof, dans une classe comme ça, a dit un jour à ses élèves, « Peu importe ce que vous croyez, du moment que vous êtes sincère. » Et là, un jeune a levé la main, puis il a dit à son prof, « Eh bien, je crois sincèrement que vous avez tort. » C'est absurde. Cette notion de dire, on peut croire n'importe quoi pourvu qu'on soit sincère. C'est absurde. On doit croire en Jésus-Christ pour être sauvé. L'apôtre Paul souligne, en parlant de justice, que son apparence de justice parfaite ne le sauve pas. Ce n'est qu'un masque, la nourriture de sa propre justice. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui se croient justes rejettent l'évangile. Ce n'est pas une justification. Ce n'est pas de passage à coupable à non coupable. Ça, c'est de la justification. Quand on passe de coupable à non coupable. Pas quand on dit avoir fait tout juste. Si un homme a fait tout juste dans sa vie, tout juste, mais qu'il a tué volontairement une personne, il ne peut pas venir devant le juge et puis lui dire qu'il ne mérite pas la peine parce qu'il a fait tout juste, sauf cette action-là. En fait, le CV spirituel de Paul est bien meilleur que celui de ceux qui voulaient placer leur confiance dans la chair. Mais un CV spirituel est totalement inutile pour le salut. On ne peut pas venir présenter à Dieu, voilà ce que j'ai fait. Non. Le seul moyen d'être sauvé, vous savez ce que c'est? C'est qu'on reçoive le CV de Christ, en fait, dans ce sens-là, et pour montrer, voilà ce qu'il a fait pour moi. Parce que ce CV que nous pourrions faire, que l'apôtre Paul pouvait présenter, c'est comme un projecteur face au soleil. Le CV de Paul est un projecteur puissant, c'est vrai. C'est énorme ce qu'il a fait. Comme ceux qui sont utilisés, j'ai lu que dans des armées, à la pointe actuellement, ils ont des projecteurs capables de voir des objets à des kilomètres de distance et de les suivre. Des kilomètres. C'est puissant, on ne peut pas le regarder en face. Mais le problème, c'est que quand le soleil brille, eh ben on ne voit pas si le projecteur est allumé ou éteint. Mais c'en est de même pour ces CV spirituels, en fait, que Paul pourrait avoir face au soleil de la justice qu'est Jésus-Christ. Il est impossible de dire s'il est allumé ou éteint. Et Paul, quand il considère son CV comme des ordures, eh bien, il veut nous montrer l'importance de ne pas placer notre confiance dans ces choses. L'illustration est assez forte quand même. Est-ce que vous placeriez votre confiance dans des ordures? Mais non. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il n'est pas en train de dire tout ce que j'ai fait dans le passé, c'est absolument zéro, Dieu n'a pas pu l'utiliser. Non, il dit simplement, je ne place pas ma confiance là-dedans. Pour moi, c'est des ordures, dans ce sens-là. Donc la question que tout cela nous amène, c'est dans quoi plaçons-nous notre confiance? Dans quoi plaçons-nous notre confiance? Qu'est-ce qui nous rassure? De quoi sommes-nous fiers? Paul préfère perdre ce qui fait le prestige d'un homme, ce qui le mettrait en avant devant les autres. Paul, il préfère perdre ce qui fait le prestige d'un homme, qu'il mettrait devant les autres. Pourquoi? Bien, c'est notre deuxième point, que j'ai intitulé « Gagner ce que l'on ne peut perdre ». Nous allons relire les versets 8 à 11. « Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec une justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. » Jim Elliot disait, et j'ai repris les points d'après cette célèbre phrase que j'aime beaucoup, mieux vaut perdre ce que l'on a, ce que l'on ne peut garder, pour gagner ce que l'on ne peut perdre. C'est fort ça, c'est ce qu'on est en train de voir ici avec l'apôtre Paul. Mieux vaut perdre ce que l'on ne peut garder, pour gagner ce que l'on ne peut perdre. Dieu a conduit Paul pour nous aider à comprendre qu'il est meilleur de considérer son CV spirituel comme une perte, parce que même si elles peuvent être impressionnantes devant les hommes, nos œuvres sont inutiles devant Dieu. Rien ne tiendrait devant Dieu. Paul préfère donc tout perdre et gagner ce qu'il ne pourrait jamais perdre. La seule justice fiable obtenue par la foi en Christ. Regardez le verset 8 où il dit ceci. Hein. « À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Non avec une justice qui serait la mienne, qui viendrait de la loi, mais avec une justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. En fait, Paul est dans la même attitude que l'homme de la parabole dans Matthieu 13, qui vend tout ce qu'il a pour aller acheter une perle. En fait, elle vaut tous les sacrifices. Est-ce que pour nous, vivre pour le Christ, saisir l'Évangile, placer notre foi en Christ, vaut tous les sacrifices? Pourquoi Paul veut-il à tout prix la justice de Christ? Eh bien là, il suffit de réfléchir un peu à notre situation. Qui a déjà menti une fois dans sa vie? Celui qui a menti une fois dans sa vie, c'est un menteur. Qui a déjà volé une fois dans sa vie? C'est un voleur. Qui a déjà dit imbécile à son frère? Il est passible du même jugement qu'un meurtrier. Qui a déjà eu une mauvaise pensée? On pourrait continuer. Dieu est parfaitement saint. Il ne tolère aucun péché. Comme notre corps ne tolère aucune goutte d'un puissant poison dans un verre d'eau. Aucun CV spirituel, aussi beau soit-il, ne nous sera d'une utilité quelconque devant le juste juge qui ne pourra que condamner tout péché. Et cette condamnation mène aux souffrances éternelles. Est-ce votre cas? Avez-vous déjà péché? En tout cas, c'est mon cas. Et aucune des bonnes actions ne peut effacer mes péchés. Si mon verre d'eau qui représente ma vie et mes bonnes actions est infecté par une goutte de poison, il faut changer tout le contenu de mon verre pour ne plus mourir. Il faut donc que mon verre empoisonné soit vidé. Et il ne peut être vidé qu'en le buvant. Dans cette illustration, on ne peut pas aller le vider comme ça. On ne peut que le vider en le buvant. Donc, si moi je ne veux pas mourir, il faut que quelqu'un le boive à ma place. Et Jésus boit le verre d'eau de celui qui se repent et qui croit. Il a bu mon verre d'eau empoisonné. Et il l'a remplacé par un verre d'eau dans lequel le poison ne peut plus se mélanger. Se repentir de son péché, demander un pardon à Dieu pour ses fautes, simplement croire qu'il a tout accompli, c'est le chemin pour perdre ce que l'on ne peut garder et gagner ce que l'on ne peut perdre. Nous gagnons la justice de Christ, la réconciliation avec Dieu, un héritage éternel et tant d'autres choses, un verre d'eau claire sans poison. Nous gagnons la justice de Christ, la réconciliation avec Dieu, un héritage éternel, tant d'autres choses. Et vivant de la justice de Christ, nous chercherons, comme Paul, à le connaître et à devenir conforme à lui. Au verset 11, un verset qui peut parfois un petit peu troubler, l'apôtre Paul dit « si possible, il aimerait arriver à la résurrection ». Ce n'est pas parce que Paul doute de son salut, il se dit « peut-être que j'y arriverai pas ». Non, en fait, c'est une marque d'humilité face aux orgueilleux qui se croient déjà arrivés. En fait, il y a des gens qui disent « non, on est déjà ressuscité, on est déjà parfait ». Et le sentiment d'indignité n'a jamais quitté Paul. Il se sent en fait indigne. Si Paul dit qu'il veut perdre ce qu'il ne peut gagner pour gagner ce qu'il ne peut perdre, ce n'est pas comme un oreiller de paresse. Parce que la justification de Christ, ce n'est pas une finalité, mais c'est un départ dans une vie consacrée. Et c'est ce que le Saint-Esprit, par Paul, nous enseigne dans la dernière partie du texte de ce jour, intitulé « Persévérer ». Et nous relisons les versets 12 jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si, sur quelques points, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frère bien-aimé, que je désire vivement revoir, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ce passage révèle en fait le souci, la passion de Paul pour la croissance spirituelle. Grandir dans la foi, pas stagner, grandir dans la foi. Et il aime utiliser des listes d'illustrations sportives dans ses lettres. Paul, c'est peut-être un sportif, en tout cas il aime le sport. Il utilise la boxe face aux Corinthiens, il parle de lutte aux Éphésiens, de combat à Timothée. Mais la métaphore qu'il préfère, c'est celle de la course à pied. Il en parle aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse dans Actes, aux Romains, aux Corinthiens, où il les encourage à ne pas courir pour rien. Pas juste courir pour courir. Non, on court pour remporter un prix. Et dans Galates, il utilise même cette image pour illustrer un refroidissement. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à cette vérité? C'est cette métaphore qui compare la vie chrétienne à une course qui est exprimée ici dans le verset 14, dans Philippiens 3. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Pour participer à une course, quelqu'un a déjà participé à une course? Peut-être. Ou bien sinon, je vais vous dire que pour participer à une course, il faut s'entraîner. On ne peut pas y aller juste comme ça. Il faut s'entraîner, s'astreindre à des exercices, parfois à un régime particulier, ou même à toutes sortes de privations, veiller à son sommeil, persévérer. La vie chrétienne n'est pas une promenade tranquille. Ce n'est pas une promenade tranquille. Il ne suffit pas seulement de se laisser aller. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que Christ nous donne sa justice que nous pouvons nous reposer dans une chaise longue spirituelle. Ce n'est pas parce que Christ nous donne sa justice qu'on peut se reposer sur une chaise longue spirituelle. De plus, quand on court, on ne regarde pas en arrière. Est-ce que vous avez déjà vu le 100 mètres aux Jeux Olympiques, par exemple? Si jamais, la prochaine fois que vous regardez, regardez si les coureurs regardent en arrière. Aucun. Parce que si quelqu'un regarde en arrière, il ne peut plus avancer. Non, il oublie ce qui est derrière et il court en avant, vers le but. Et si jamais vous ne me croyez pas, cet après-midi, par exemple, vous pouvez essayer de courir en regardant en arrière. Mais il faut bien comprendre que c'est ainsi que nous avançons spirituellement lorsque nous portons le poids du passé, que nous voulons continuer à porter des choses qui doivent être déposées au pied de la croix. C'est comme si on courait en regardant en arrière. Ou bien lorsque nous nous appuyons sur ce que nous avons réalisé. Regarder en arrière nous handicape, nous retient, ne nous permet pas de faire face en plus à ce qui est devant nous. C'est dangereux de courir en regardant en arrière. J'ai déjà donné. Maintenant, je ne veux plus m'engager. J'ai donné. Ça, c'est regarder en arrière. Est-ce que Christ nous dit cela lorsque nous nous présentons devant lui? J'ai donné. Je m'appuie sur mes succès, mes échecs passés pour ne plus m'engager. Sur mes succès ou mes échecs passés. Je regarde en arrière. Or, je ne m'engage plus. Paul vient d'expliquer que son CV spirituel est inutile. Il a délesté ses accomplissements humains pour gagner la connaissance, la justice, la puissance, la communion et la gloire en Jésus-Christ, pour les vivre. Ah, Philippe, certains d'ailleurs, et là on arrive sur le deuxième sujet, le problème, ont pensé à tort que parce qu'il possédait ces merveilleux atouts, Paul avait atteint la perfection spirituelle. Les judaïsants ont sûrement enseigné aux Philippiens que la perfection spirituelle s'atteignait par la circoncision, l'observance de la loi. Là, on est parfait. Pour contrer de telles idées fausses, Paul s'empresse de dire, et il le dit clairement, verset 12, hein, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Paul n'a pas remporté le prix. Il n'est pas encore dans la perfection. Oui, Paul est une nouvelle créature. Paul est une nouvelle créature. Il est doté d'un cœur nouveau. Il a une nouvelle disposition qu'il pousse fortement à la sainteté. Il est uni à Christ. Il possède une intelligence renouvelée. Le Saint-Esprit habite en lui. Oui, et ça c'est la marque de tout chrétien. Mais Paul n'a pas encore atteint la perfection. Paul n'a pas encore atteint la perfection. Il vit encore dans un monde déchu et le péché s'accroche encore à lui. Il vit encore dans un monde déchu et le péché s'accroche encore à lui. Et c'est en fait l'expérience de tout chrétien qui vit encore sur cette terre. S'il n'est pas parvenu à la perfection, par contre, il la poursuit de toutes ses forces. Comme Pierre, Paul comprend que la vie chrétienne est le processus de toute une vie. C'est un processus qui nous amène à croître. Voilà ce que Pierre dit, hein, à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toute notre vie que nous allons croître et progresser. Paul, c'est sans doute un des chrétiens les plus engagés, si ce n'est le chrétien le plus engagé, le plus consacré, le plus mûr spirituellement qui ait jamais vécu. Et il confesse volontiers qu'il n'a pas atteint la perfection spirituelle, même 30 ans après sa conversion. Cette confession, en fait, est une preuve évidente de sa véritable maturité spirituelle. Parce que plus nous progressons, plus nous constatons que nous sommes loin d'une vie parfaite. Mais c'est pas parce que c'est comme un enfant. Quand il est enfant, il ne se rend pas compte de tout ce qu'il pourrait connaître. Plus il grandit, hein, plus la croissance, plus il se rend compte de tout ce qu'il pourrait encore connaître, qui est bien plus que ce qu'il connaissait en étant petit. Nous demandons alors peut-être, mais alors pourquoi devons-nous chercher la croissance spirituelle si quelque part on n'atteint pas cette perfection? Eh bien, j'aimerais vous donner 9 raisons excellentes pour lesquelles le chrétien doit grandir spirituellement. La première, c'est que la croissance du chrétien glorifie Dieu. Celui qui ne grandit pas spirituellement ne glorifie pas Dieu. La croissance du chrétien glorifie Dieu. Deuxièmement, la croissance du chrétien prouve que son salut est authentique. Celui qui ne progresse pas spirituellement, est-ce qu'il est vraiment sauvé? On a des phases de vie qui sont plus difficiles, c'est vrai. Mais si constamment on ne croise pas, vous savez, si vous avez une plante qui ne grandit pas, c'est qu'elle est morte. Donc il faut un salut. La croissance du chrétien prouve que son salut est authentique. Troisièmement, la croissance du chrétien honore et rend visible la vérité divine auprès des autres. Quatrièmement, la croissance du chrétien donne l'assurance du salut. Ça nous stimule, nous-mêmes. La croissance du chrétien, cinquièmement, protège contre la tristesse et les souffrances liées à l'immaturité. La croissance du chrétien protège contre la tristesse et les souffrances liées à l'immaturité. Hein? En fait, au début, des fois, on ne comprend pas la souveraineté de Dieu. Voilà. On entre dans la croissance et on commence à saisir qu'est-ce que c'est que cette souveraineté de Dieu. Et ça va nous aider dans les moments de difficulté. Donc, ça va, en fait, nous protéger contre certaines tristesses et certaines souffrances. Parce que nous pouvons les déposer à Dieu sans crainte de savoir qu'il maîtrise tout cela. Ou par exemple, lorsque quelqu'un comprend toujours mieux le texte de 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Le chrétien commence à mettre de moins en moins d'importance sur ce qui est visible pour en mettre de plus en plus sur ce qui est invisible. Ça, c'est quand on croit dans la foi. Sixième élément, la croissance du chrétien garde la cause du Christ de tout reproche. La croissance chrétienne garde la cause du Christ de tout reproche. Parce qu'un chrétien qui ne grandit pas fait dire au monde que Dieu n'a pas la puissance de le faire grandir. Septièmement, la croissance du chrétien produit la joie dans la vie des croyants. Et ça, je peux le dire pour moi, mais je pense que pour vous, c'est la même chose. Lorsque vous voyez quelqu'un qui progresse dans la foi, ça vous encourage. Donc, si vous progressez dans la foi, vous encouragez les autres. Voyez ? Donc, ça nous stimule. On dit, mais oui, je veux progresser, je veux être un encouragement pour les autres. Huitième élément, la croissance du chrétien prépare au ministère envers les autres membres du corps de Christ. La croissance du chrétien prépare au ministère envers les autres membres du corps de Christ. Puisque quand on grandit dans la foi, eh bien, on peut partager ce que l'on a compris en plus. C'est des outils, en fait. Notre croissance sera utilisée par Dieu pour même aider et dans le ministère que Dieu nous confie. Et neuvième élément, la croissance du chrétien rehausse le témoignage auprès du monde perdu. Il rehausse le témoignage auprès du monde perdu. Hein, si nos chrétiens voient nos progrès et que nous disons clairement que cela vient de Dieu, ce sera un puissant exemple qui indique l'œuvre de Dieu. Donc j'espère que ces quelques éléments vous aident à se dire, mais oui, ça vaut la peine de grandir et progresser. Oui, c'est vrai que sur cette terre, je n'arriverai pas à la perfection, mais on y arrivera à la perfection. Un jour. Ça, c'est sûr. Et pas par nos forces. Mais nous mettrons toutes nos forces pour justement que notre croissance puisse être glorifier Dieu, prouver notre salut, l'honorer, etc. Tout ce que nous venons de voir. Pour avancer, Paul indique qu'il est utile de suivre des exemples. Soyez mes imitateurs. Nous en avons parlé lors de la dernière prédication, lorsque nous avons parlé de Timothée et d'Épaphrodite. Et vous vous souvenez sûrement que tous les modèles humains que nous suivons doivent nous conduire au modèle suprême qu'est Jésus-Christ. Par rapport à cette motivation aussi à entrer dans cette perfection, il est bon aussi de regarder un peu autour de nous et de voir que les gens qui exercent une influence dans le monde sont toujours résolus à atteindre leur objectif. Ou les sportifs qui veulent arriver à une médaille, en fait, ils sont résolus. Ils font tout leur possible, ils sont prêts à faire des sacrifices. Donc la question à nous poser, c'est quel est notre objectif ? Et est-ce qu'on y met toute notre énergie réellement ? Bien des serviteurs de Dieu ont souffert pour atteindre l'objectif de glorifier Dieu. Et nous avons bien des récits d'hommes et de femmes de Dieu dans l'histoire. Et ils ont tous un point commun. Leur confort était moins important à leurs yeux que le désir d'être semblable à Jésus-Christ, homme. Ça, c'est un point que vous retrouverez. Toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, qui ont été des serviteurs et servantes de Dieu fidèles, on voit en fait que leur confort était moins important à leurs yeux que le désir d'être semblable au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont marqué l'Église par leur consécration totale à Dieu, par leurs efforts inlassables pour propager l'Évangile. Et malheureusement, dans l'Église d'aujourd'hui, il y en a peu qui manifestent le même niveau d'engagement envers la cause de Christ. Il y en a encore, heureusement, et parmi nous aussi. Mais que le Seigneur nous stimule et nous fortifie dans ce cheminement. Et les raisons ont toutes une racine commune, et Paul le dit. Donc pourquoi il y en a de moins en moins ? C'est qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est une gangrène qui s'introduit aussi dans l'Église. Par exemple, par un élément qui est venu depuis quelques années déjà, qui s'appelle la psychologie humaniste. Et selon une hypothèse de base de cette pensée, les gens existeraient pour leur propre satisfaction. Voilà pourquoi les gens existent. C'est pour leur propre satisfaction. Donc l'objectif le premier des gens devrait viser... Donc l'objectif premier que les gens devraient viser serait la satisfaction de leurs besoins et de leurs désirs perçus. C'est en fait penser aux choses de la terre. Mais c'est ça. L'objectif, c'est que je sois bien. Puisque si c'est le pourquoi on a été créé. Alors seulement, je serai heureux et épanoui. Et malheureusement, la présentation même de l'Évangile reflète souvent cette philosophie humaniste. Dieu est devenu une sorte de génie utilitaire qui existe pour accorder aux gens ce qu'il faut pour être heureux et épanoui. La Bible présente Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur souverain, devant qui tout genou doit fléchir en signe de soumission et d'obéissance absolue. Mais les présentations contemporaines de l'Évangile offrent Jésus comme la solution rapide dans votre vie. Comme s'il était une sorte de psychiatre divin ou un détergent divin qui nettoie tout, comme si Dieu était là simplement pour servir. En fait, les attitudes cherchant la satisfaction personnelle sont opposées à l'attitude caractéristique de la vraie spiritualité qui consiste en une humble et modeste expression de la grâce de Dieu. Pour beaucoup, la vie chrétienne a pour but de satisfaire leurs besoins, d'être heureux, d'avoir une bonne image de soi, d'éliminer tous les problèmes de la vie. C'est ça être chrétien. Dieu va répondre à tous mes problèmes. Il va tout résoudre. Oui, mais on est en train de penser en fait encore uniquement à ce qu'on vit sur cette terre. Ainsi, c'est ce que l'apôtre Paul dit hein, au verset 19. Il ne pense qu'aux choses de la terre. L'accent est mis sur les gens et non sur Christ. Si la psychologie humaniste dit que nous existons pour notre propre satisfaction, la parole de Dieu nous dit que nous existons pour la satisfaction de Dieu. L'objectif du salut est que le croyant soit rendu conforme à l'image du Fils. C'est pourquoi Paul dit « Leur Dieu, c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et là, je répète cette phrase qui me paraît très importante. L'objectif de la vie chrétienne n'est pas la satisfaction personnelle, mais la satisfaction de Dieu. C'est ça notre objectif, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas que nous soyons satisfaits, c'est que Dieu soit satisfait. Et le moyen pour satisfaire Dieu est de grandir à la ressemblance de celui qui a souvent répété « Suivez-moi, suivez-moi ». Et ce moyen que Dieu a donné ne doit être ni remplacé ni amélioré. Il est parfait. Suivre Christ. Ça, c'est la manière de satisfaire Dieu. Et nous le faisons en ayant une perspective. Cette perspective est donnée dans les versets 20 et 21 qui nous dit ceci. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié et le rendra semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et je terminerai par une méditation sur cette promesse qui dit ceci. Souvent, quand la douleur nous tenaille et que nous sommes incapables de penser à l'adoration de Dieu, nous regardons effectivement ce corps-ci comme celui de notre humiliation. Quand les passions qui s'élèvent de notre chair nous tentent, nous ne considérons pas alors cette expression d'humiliation comme étant outrée. Mais notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, va changer tout cela. Il nous transformera dans la similitude de son propre corps de gloire. Ceci prendra place pour tous ceux qui croient en Jésus. Nous ne pouvons pas dire dans combien de temps cette transformation grandiose aura lieu. Mais la pensée devrait nous aider à supporter les épreuves de ce jour et tous les maux de la chair. Dans peu de temps, nous serons pareils à ce qu'est Jésus actuellement. Finis alors les fronts douloureux, les membres enflés, les yeux affaiblis et les cœurs défaillants. Le vieil homme ne sera plus un assemblage d'infirmités, ni le malade un tas de douleurs. Semblable au corps de sa gloire. Méditez juste cette expression ici. Semblable au corps de sa gloire. Quelle expression! Même notre chair se repose dans l'espérance d'une telle résurrection. Pour conclure, j'aimerais laisser une réflexion, une phrase, une question, une longue question. Est-ce que je suis prêt à perdre ce que je ne peux garder? Même si j'y tiens, est-ce que je suis prêt à perdre ce que je ne peux garder? Pour gagner ce que je ne peux perdre, même si ça me coûte, pour gagner ce que je peux perdre et persévérer dans la course de la foi. Je répète la question sans commentaire. Est-ce que je suis prêt à perdre ce que je ne peux garder pour gagner ce que je ne peux perdre et persévérer dans la course de la foi? Nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour l'apôtre Paul que tu as inspiré afin de nous guider, Nous te remercions parce que tu nous montres l'importance de nous dévêtir de ce qui est en fait inutile, de ce qui est mauvais, de ce qui nous freine, de ce qui ne nous sera d'aucun gain pour l'éternité, afin de revêtir ce que toi tu nous donnes, afin d'entrer dans ce cheminement de servir, de t'aimer, parce que nous le faisons en retour à cet amour que tu nous as donné. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous motives et tu nous stimules à chercher la perfection. Non pas parce que nous pourrions la trouver par nous-mêmes, non pas parce que cela nous glorifierait, mais parce que cela est un encouragement, cela est une manière de te glorifier, cela est une manière de manifester l'œuvre que tu fais en nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons plutôt cherché les choses de la terre. C'est vrai, nous avons besoin, Seigneur, de vivre ici-bas. Mais tu ne nous dis pas, Seigneur, de mettre de l'importance dans ces choses. Tu nous dis de le vivre de manière à te glorifier. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que nous puissions vraiment saisir ce que signifie, ce qui est si profond dans ce texte. D'être prêt à perdre ce qu'on ne peut pas garder pour gagner ce que l'on ne peut perdre et persévérer dans la foi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Qui pourrait y arriver? Personne sans ton aide, mais tous qui confessent ton nom, qui te cherchent. Parce que Seigneur, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes le mouvement à l'être. Et ce que tu as commencé, tu le termines. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.